Bonjour, c'est Yannick, votre hôte. Bienvenue dans Reflet du crime. Et salut. Bienvenue dans mon premier podcast, mon premier avis. Histoire courte, je suis un fan de True Crime. Depuis l'an passé, peut-être. Et j'écoute plein de podcasts, soit en anglais, plus en anglais qu'en français. Et j'ai décidé de me lancer dans cette aventure-là. Fait que je commence ça right now. La première histoire, ou le premier cas que je vais vous parler, c'est Gemma Hader. C'est une femme, excuse-moi, c'est une femme de 27 ans qui vient de rugby, et oui, rugby, dans le Warwickshire. Warwickshire. Cette femme-là a dû faire face à de nombreuses difficultés en raison d'un trouble de l'apprentissage. C'est ça. Donc, puis là, malgré ces difficultés, ben, c'était connu pour sa nature aimante et confiante. Mais en août 2010, Gemma était malheureusement victime d'un crime odieux qui était perpétré par des individus qu'elle considérait ses amis, ses propres amis. Fait que, tu sais, son corps par la suite a été découvert sur une voie ferrée, désaffectée, marquant à la fin d'une vie remplie à la fois de résilience puis de vulnérabilité, pardon. La vie de Gemma était, on va dire, prématurée, mettant en évidence des gros problèmes, des problèmes critiques concernant la protection et le soutien des adultes qui sont vulnérables, des adultes qui, pour eux, les gens sont sympathiques, il n'y a pas de mauvaise personne dans la vie. Et puis, un examen sérieux du dossier mené par son meurtre, pardon, a révélé des lacunes importantes dans le système de soutien, soulignant la nécessité de meilleures mesures de protection pour les personnes souffrant de troubles de l'apprentissage. Et dans le fond, dans cet épisode de podcast, je veux qu'on vise à faire la lumière sur l'histoire de cette pauvre Gemma. Puis on va explorer les circonstances qui ont conduit à sa fin tragique et en examinant des implications plus larges pour le traitement des personnes vulnérables dans notre société. Premièrement, le cercle social de Gemma est composé, comme j'ai dit dans le début, d'individus qu'elle croyait être ses amis. Des gens avec qui elle avait des affinités, qui elle passait du temps. Mais ces personnes-là ont exploité son côté vulnérable. Et puis, les principaux individus qui ont été impliqués dans cette histoire-là. Chantel Booth, 21 ans. C'était le leader de ce groupe-là. Daniel Newstead, 20 ans. Mais c'était le petit ami de Booth. Il était très, très, très proche et associé aux activités du groupe. Joy Boyer, 18 ans. C'était le membre le plus jeune du groupe. Et puis il était aussi lui aussi impliqué dans les événements qui ont conduit à la mort de Gemma. Jessica Linus, 18 ans, a participé aussi à ce qui va arriver plus tard dans le cas de Gemma. Finalement, Duncan Edwards, 19 ans, le dernier membre du groupe à avoir participé au meurtre de Gemma. Puis dans le fond, Gemma, je l'ai dit, avait des troubles d'apprentissage. Puis ce qu'elle voulait le plus dans la vie, c'était qu'on l'accepte comme elle est, comme personne. Malheureusement, ce désir l'a amené à former des liens avec ces personnes-là qui n'avaient vraiment pas du tout d'intérêt pour elle. Le groupe a exploité sa confiance, il l'a manipulé pour qu'elle accomplisse des tâches à leur profit à eux. Par exemple, ils l'ont convaincu de cacher des substances illégales dans son appartement sous prétexte de protéger des cadeaux. De protéger des cadeaux. Tu demandes à une personne qui est vulnérable de cacher des substances illégales. Ça me... Je comprends pas. Et par la suite, il y avait une dynamique au sein de ce groupe-là. Puis une dynamique déséquilibrée, on va dire comme ça. Gemma était souvent l'objet de moqueries et de mauvais traitements. Un incident qui illustre ce phénomène s'est produit le 8 août 2010, quand Gemma fait une remarque enjouée sur l'âge de Chantel en entrant dans un pub, un bar. Cette blague-là, apparemment, anodine, a mis Chantel en colère, puis éventuellement déclenché une chaîne d'événements qui va aboutir à la mort tragique de Gemma. Tu sais, malheureusement, Gemma est confiante, pas naïve, mais confiante, puis son désir de compagnie l'ont rendu plus vulnérable à de telles exploitations. L'association qu'elle avait avec ce groupe-là, qu'elle considérait des amis, a finalement conduit à une mort tragique, mais une mort prématurée. Là-dedans, il est essentiel de comprendre la composition et la dynamique du cercle social de la victime pour comprendre les facteurs qui ont conduit à sa fin tragique. Cela met en évidence des vulnérabilités auxquelles sont confrontées toute autre personne souffrant de troubles d'apprentissage et souligne l'importance des mesures de protection pour les protéger de l'exploitation et des préjudices, parce que ces gens-là, il faut les protéger d'une certaine façon. C'est ça. Pardon. Dans les jours qui ont précédé sa mort tragique, mais les interactions avec Gemma Hader, avec des personnes qu'elle considérait comme des amis, ont pris, une tournure périlleuse qui va aboutir à des événements qui ont finalement conduit à son meurtre, son décès. Le 8 août 2010, là on parle d'un faux pas fatal. Vraiment, c'est tout là que ça a commencé. Tu sais, ce jour-là, notre pauvre Gemma va décider d'accompagner Chantel et les autres membres du groupe dans un pub local pour prendre du bon temps, pour prendre un verre. Puis pendant le séjour là-bas, Gemma a fait un commentaire sur l'âge de Chantel, suggérant qu'elle avait juste 16 ans. T'sais, c'était une remarque anodine, c'est pas... Il n'y a rien à se mettre en colère pour ça. Mais cette remarque-là, apparemment, Chantel, elle l'a vraiment, mais vraiment mal pris. Puis ça a conduit une altercation physique au cours de laquelle elle a attaqué Gemma. Puis cet événement-là, a monté en escalade, une escalade significative dans le traitement de Gemma par le groupe, déclenchant alors une chaîne d'événements qui va conduire à la fin de sa vie. Le 9 août 2010, le lendemain, Gemma est invitée comme ça chez Chantel dans un endroit ben, qu'elle connaissait déjà. Parce qu'elle avait déjà été avec Chantel et les autres membres du groupe. À son arrivée, Gemma a été rapidement soumise à des graves sévices. Elle a été forcée à boire de l'urine. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, moi non, mais c'est vraiment épouvantable. Ils l'ont battu, ils ont cassé le nez. Le groupe l'a ensuite conduit de force sur le quai du chemin de fer isolé, sous prétexte de l'accompagner chez elle. Déjà là, ça tourne pas rond, ça va pas bien, quelque chose qui fonctionne pas dans cette histoire-là. Puis là, rendu là, ils ont continué de l'agresser encore et encore. Puis ces agressions-là ont finalement conduit à sa mort. Les éléments que je vous ai parlé là vont mettre en évidence les conséquences tragiques de la confiance mal placée que Jamie pouvait avoir avec ses amis-là. Ce qui l'a amené à être exploité aussi par ces personnes qu'elle croyait des amis. La séquence tragique, au fond des événements que je vous ai parlé qui ont conduit à sa mort, s'est déroulée, mettre en évidence une profonde trahison. Le calvaire a commencé lorsque Gemma s'est rendue dans l'appartement de Chantel, dans le fond, et que son petit ami Daniel Newstead, ben, là, a commencé à lui faire subir des graves sévices. Comme je disais, elle a été forcée de boire de l'urine. Elle a été frappée avec un manche à balai. Sa tête a été même claquée contre un radiateur. Un radiateur, là, c'est fait en... Je ne sais pas le métaux, mais c'est un acier assez résistant quand même. Là. Elle a été confinée dans les toilettes pendant un certain temps. Ça, on ne sait pas combien de temps, mais quand même un certain nombre de temps enfermée dans des toilettes. Puis, tu sais, dans tous ces événements-là, Joe, Jessica, Duncan étaient tous présents puis complices de tous ces abus-là. Par la suite, ce groupe-là l'ont escorté vers... Et on a eu l'agression finale. T'sais, ils l'ont emmené dans un endroit sur un talus ferroviaire isolé. Il n'y a personne qui pouvait l'entendre, personne qui pouvait voir ce qui se passait, personne qui pouvait intervenir, personne. Il n'y avait aucun témoin. Puis là, ben, la violence s'est encore plus intensifiée. Ce que je vous ai parlé tantôt, boire l'urine, frapper avec un manche à balai, c'est rien. Lui ont mis un sac de plastique sur la tête. Tenter de l'étouffer, pour tenter de l'asphyxier. Elle a été frappée à plusieurs reprises, même à coups de pied, puis piétinée. Elle aussi a été poignardée une fois dans le dos. Elle a été dépouillée de ses vêtements. Mais quel manque de dignité. T'sais, cette personne-là n'a plus aucune dignité, là, dépouillée de ses vêtements. Ils ont juste qu'à tenter de mettre le feu à ses affaires. J'imagine pour détruire les indices. Puis, tu sais, finalement, le corps, sans vie de Gemma a été découvert le lendemain, donc le 10 août 2010, sur la voie ferrée. Donc, plus de vêtements, avec un sac sur la tête, des blessures à la tête, blessures. Un coup de couteau dans le dos, des marques de blessures apparentes. Cette séquence d'événements-là, poignant, je vous dis, c'est poignant, souligne l'extrême cruauté et la trahison que Gemma a enduré de la part de ceux qui, en elle, qui avaient confiance. Et ils vont mettre en lumière cette vulnérabilité auquel sont confrontées les personnes souffrant de ces problèmes. Puis là, on l'emmène à la mort tragique de Gemma. Ben, les forces de l'ordre, les policiers, ont lancé une enquête approfondie qui rapidement a conduit à de devenir à l'arrestation, à la poursuite des responsables, de ces gens-là qui ont profité de Gemma puis que, sans aucun respect. La découverte de son corps, en fond, a été faite par un jogger qui s'entraînait, passait par là de façon anodine. Puis rapidement, ben, la nature de ses blessures ben, et les circonstances de sa mort ont immédiatement indiqué, bien entendu, un acte criminel. En quelques jours, rapidement, les cinq individus ont été arrêtés. Chantel Booth, 22 ans, considéré le personnage central de l'histoire. Daniel, le petit ami et participant aux événements qui ont conduit à la mort de Gemma. Joe, impliqué dans l'agression et le meurtre qui a suivi. Jessica Lynn, qui était présente, impliquée aussi dans les cas. Et finalement, Duncan Edwards, également présent et complice des événements. Ces individus-là étaient connus pour avoir fait du cercle social de Gemma, ce qui a conduit les enquêteurs à examiner de plus près leur implication dans cette affaire-là. Et les preuves médico-légales et témoignages des témoins ont aidé à fournir des preuves cruciales pour leur arrestation. Des taches de sang, comme on sait, des empreintes digitales et d'autres données médico-légales ont permis aussi de relier les suspects à cette affaire-là. De plus, ben, les témoins ont corroboré la séquence d'événements ayant conduit à la mort de Gemma, renforçant ainsi le dossier contre les accusés. Ben, tous les témoins qui ont corroboré, c'est vraiment, il fallait les mettre bout à bout et tout se tenait là. Donc, les accusés n'avaient pas rien pour, pas d'alibi ou rien pour contredire l'histoire et les témoins. Les accusations de meurtre qui ont porté contre Chantel, Daniel, Joe pour leur implication directe dans le meurtre. Ils ont eu des accusations d'homicide involontaire. Les accusations d'homicide involontaire portées contre Jessica et Duncan Edwards pour leur rôle dans les événements qui ont conduit à sa mort. Le procès a commencé à Old Bailey, où l'accusation a présenté un dossier, comme je l'ai dit tantôt, convaincant, avec plein de détails sur les abus puis les meurtres et le meurtre éventuel de Gemma Hader. La défense, elle, a tenté d'atténuer la culpabilité de ses clients, mais les preuves, comme j'ai dit, étaient accablantes, étaient là. Et ça a conduit à des condamnations. Donc, et le 12 septembre 2011, le tribunal s'est prononcé sur les peines suivantes. Chantel, réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 21 ans. Daniel, même chose, une peine, mais avec une peine de 20 ans. Joe, réclusion à perpétuité avec une peine, lui, minimale de 16 ans. Jessica, c'est la personne qui a eu le moins dans cette histoire-là, 13 ans de prison pour homicide involontaire. Duncan, 15 ans de prison pour aussi un homicide involontaire. À la fin, le juge excusez, a qualifié ce crime-là d'acte vil en voulant reflétant une brutalité inimaginable. Vraiment, le juge était clair, vil. Conséquence, réflexion dans tout ça. L'affaire a donné lieu à un examen approfondi qui a identifié des lacunes importantes dans le système de soutien aux adultes vulnérables souffrant de troubles de l'apprentissage non diagnostiqués. Il a souligné la nécessité d'une meilleure communication interinstitutionnelle et de mécanismes aussi pour éviter que de telles tragédies arrivent par la suite. Ces gens-là ont besoin, nos soutiens ont besoin d'aide. Et l'enquête et les procédures judiciaires qui ont suivi ont souligné l'importance de protéger, comme je disais, ces personnes-là qui sont vulnérables. Et faire en sorte que ils ne soient pas exploités et qu'on ne leur fasse pas du mal, puis que les gens qui décident de faire ce que ce groupe-là a fait soient traduits en justice. Après l'arrestation de ces 5 individus, comme je dis, ils ont été jugés coupable et été envoyé derrière les barreaux. La procédure du procès ont présenté quand même des récits assez détaillés des sévices. Et j'aurais pas aimé être les jurys puis entendre toutes les choses que Gemma a subi. J'aurais pas aimé honnêtement être à leur place. Ces preuves-là, ils comprenaient des témoignages, des conclusions médico-légales, des interactions des accusés avec Gemma, qui va illustrer un modèle d'exploitation et de violence. La défense a cherché à atténuer la culpabilité du client, mais comme je dis, l'épreuve était trop. Et l'épreuve était accablante. La réponse de la famille dans toute cette histoire-là, je les comprends, a exprimé quand même un très grand, profond mécontentement à l'égard des systèmes de soutien en place. Parce qu'il estime que les autorités locales n'avaient pas fait assez pour s'occuper d'elles. Ils ont estimé qu'un meilleur soutien aurait pu éviter qu'elles soient associées à des individus qui présentaient de graves risques. Ils ont raison d'être fâchés et de ne pas comprendre ce qui est arrivé. T'sais. Puis, cette affaire-là a suscité une attention médiatique importante conduisant à la production d'un documentaire de la BBC 3 qui ont intitulé Jenna, My Murder. Un film qui visait à sensibiliser l'exploitation des personnes vulnérables et au phénomène connu sous le nom de crime de partenaire où des personnes handicapées sont maltraitées par ceux qu'elles considèrent comme des amis. Je voudrais faire une petite réflexion sur la protection de ces adultes-là. La mort tragique d'Emma a souligné un besoin crucial de mesures de protection solides. L'affaire a suscité des discussions sur l'amélioration des systèmes de soutien, la garantie d'une meilleure protection et la promotion d'une plus grande sensibilisation de la société pour prévenir des incidents similaires à l'avenir. le procès et ses suites ont mis en évidence des lacunes systématiques et souligné l'importance de la vigilance et d'un soutien complet aux personnes souffrant de troubles de l'apprentissage. Je terminerai sur cette petite conclusion. Le meurtre tragique de Gemma Hayter en 2010 nous rappelle brutalement les vulnérabilités auxquelles sont confrontées les personnes souffrant de troubles d'apprentissage, souffrant d'un handicap intellectuel, d'un handicap physique, d'un trouble neurologique, pour nommer que ceux-là. Malgré sa nature confiante, Gemma a été victime de ceux qu'il considérait des amis, ceux avec qui il partageait des bons moments, ceux avec qui il pensait être en sécurité. Mais ceci a conduit à sa mort prématurée, malheureusement. L'examen du dossier qui suivit a mis en évidence des lacunes. Et ce cas souligne l'importance cruciale de la vigilance sociétale et de l'élaboration des mesures de protection solides pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Je vous laisse avec ceci. Selon vous, ces gens-là, ces personnes qui sont des humains comme tout le monde, avec des forces, des faiblesses, des gens qui sont vulnérables, est-ce que ces personnes-là, on devrait leur offrir de meilleurs services, on leur devrait les supporter davantage? Je lance ça comme ça. Parce que dans le fond, des gens comme ce groupe-là qui ont profité de Gemma, qui l'ont exploité, qui l'ont maltraité, qui l'ont fait subir les choses les plus horribles. J'ai aucun respect pour ces gens-là. Et j'espère qu'une histoire comme ça ne se reproduira pas. Même si je sais que ça risque d'arriver encore parce que les gens vulnérables et ceux qui ont des idées tordues derrière la tête sont comme attirés vers ces proies, ces personnes qui considèrent comme des proies faciles. Donc, ceci est la fin de mon tout premier podcast. Alors, j'espère que j'aurai pas trop de mauvais commentaires, mais gênez-vous pas, c'est mon premier. Donc, sur ce, à la prochaine et faites attention à vous. Ciao!